Pauline, chapitre 5. La première personne qui s'aperçut de l'amour insensé de Pauline fut Madame S. Elle avait pressenti et deviné, avec l'instinct du génie maternel, le projet et la tactique de Mongenet. Elle n'avait jamais été dupe de son indifférence simulée et s'était toujours tenue en méfiance de lui, ce qui faisait dire à Mongenet que Madame S. était comme toutes les mères d'artistes, une femme bornée, maussade, fâcheuse au développement de sa fille. Lorsqu'il fit la cour à Pauline, Madame S., emportée par sa sollicitude, craignit que cette ruse n'eût une sorte de succès et que Laurence se sentit piquée d'avoir passé inaperçue devant les yeux d'un homme à la mode. Elle n'eût pas dû croire Laurence accessible à ce petit sentiment. Mais Madame S., au milieu de sa sagesse vraiment supérieure, avait de ces enfantillages de mère qui s'effraient, hors de raison, au moindre danger. Elle craignit le moment où Laurence ouvrirait les yeux sur l'intrigue entamée par Mongenet, et au lieu d'appeler la raison et la tendresse de sa fille au secours de Pauline, elle essaya seule de détromper celle-ci et de l'éclairer sur son imprudence. Mais quoiqu'elle y mît de l'affection et de la délicatesse, elle fut fort mal accueillie. Pauline était enivrée. On lui eût arraché la vie plutôt que la présomption d'être adorée. La manière un peu aigre dont elle repoussa les avertissements de Madame S. donna un peu d'amertume à celle-ci. Il y eut quelques paroles échangées où perçait d'une part le sentiment de l'infériorité de Pauline, de l'autre, l'orgueil du triomphe remporté sur Laurence. Effrayée de ce qui lui était échappé, Pauline le confia à Mongenet, qui, plein de joie, s'imagina que Madame S. avait été en ceci la confidente et l'écho du dépit de sa fille. Il crut toucher à son but, et comme un joueur qui double son enjeu, il redoubla d'attention et d'assiduité auprès de Pauline. Déjà, il avait osé lui faire ce lâche mensonge d'un amour qu'il n'éprouvait pas. Elle avait feint de ne pas y croire, mais elle n'y croyait que trop, l'infortunée. Quoiqu'elle se fût défendue avec courage, Mongenet n'en était pas moins sûr d'avoir bouleversé profondément tout son être moral. Il dédaignait le reste de sa victoire et attendait pour la remporter ou l'abandonner que Laurence se prononçât pour ou contre. Absorbée par ses études et forcée de passer presque toutes ses journées au théâtre, le matin pour les répétitions, le soir pour les représentations du répertoire, Laurence ne pouvait suivre les progrès que Mongenet faisait dans l'estime de Pauline. Elle fut frappée un soir de l'émotion avec laquelle la jeune fille entendit la vallée, le vieux comédien, homme d'esprit, qu'avait servi de patron et pour ainsi dire de répondant à Laurence lors de ses débuts, juger sévèrement le caractère et l'esprit de Mongenet. Il le déclara vulgaire entre tous les hommes vulgaires. Et comme Laurence défendait au moins les qualités de son cœur, la vallée s'écria « Quant à moi, je sais bien que je serai contredit ici par tout le monde, car tout le monde lui veut du bien. Et savez-vous pourquoi tout le monde l'aime ? C'est qu'il n'est pas méchant. Il me semble que c'est quelque chose, dit Pauline avec intention et en lançant un regard plein d'amertume au vieil artiste, qui était pourtant le meilleur des hommes et qui ne prit rien pour lui de l'allusion. « C'est moins que rien, répondit-il, car il n'est pas bon. » Et voilà pourquoi je ne l'aime pas, si vous voulez le savoir. On n'a jamais rien à espérer, et l'on a tout à craindre d'un homme qui n'est ni bon ni méchant. Plusieurs voix s'élevèrent pour défendre Mongenet et celle de Laurence par-dessus toutes les autres. Seulement, elle ne put l'excuser lorsque la vallée lui démontra par des preuves que Mongenet n'avait point d'amis véritables, et qu'on ne lui avait jamais vu aucun de ces mouvements de vertueuse colère qui trahissent un cœur généreux et grand. Alors, Pauline, ne pouvant se contenir davantage, dit à Laurence qu'elle méritait plus que personne le reproche de la vallée, en laissant accabler un de ses amis les plus sûrs et les plus dévoués, sans indignation et sans douleur. Pauline, en faisant cette sortie étrange, tremblait et cassait son aiguille de tapisserie. Son agitation fut si marquée qu'il se fit un instant de silence et tous les yeux se tournèrent vers elle avec surprise. Elle vit alors son imprudence et essaya de la réparer en blâmant d'une manière générale le train du monde dans ces sortes d'affaires. « C'est une chose bien triste à étudier dans ce pays, dit-elle, que l'indifférence avec laquelle on entend déchirer des gens auxquels on ne rougit pourtant pas un instant après de faire bon accueil et de serrer la main. Je suis une ignorante, moi, une provinciale sans usage, mais je ne peux m'habituer à cela. Voyons, monsieur Lavallée, c'est à vous de me donner raison, car me voici précisément dans un de ces mouvements de vertu brutale dont vous reprochez l'absence à monsieur Mongenet. » En prononçant ces derniers mots, Pauline s'efforçait de sourire à Laurence pour atténuer l'effet de ce qu'elle avait dit, et elle y avait réussi pour tout le monde, excepté pour son amie, dont le regard, plein de sollicitude et de pénétration, surprit une larme au bord de sa paupière. Lavallée donna raison à Pauline, et ce lui fut une occasion de débiter avec un remarquable talent une tirade du misanthrope sur l'ami du genre humain. Il avait la tradition de Fleury pour jouer ce rôle, et il l'aimait tellement que malgré lui, il s'était identifié avec le caractère d'Alceste, plus que sa nature ne l'exigeait de lui. Ceci arrive souvent aux artistes. Leur instinct les porte à moitié vers un type qu'ils reproduisent avec amour. Le succès qu'ils obtiennent dans cette création fait l'autre moitié de l'assimilation, et c'est ainsi que l'art, qui est l'expression de la vie en nous, devient souvent en nous la vie elle-même. Lorsque Laurence fut seule le soir avec son amie, elle l'interrogea avec la confiance que donne une véritable affection. Elle fut surprise de la réserve et de l'espèce de crainte qui régnait dans ses réponses, et elle finit par s'en inquiéter. « Écoute, ma chérie, lui dit-elle en la quittant, toute la peine que tu prends pour me prouver que tu ne l'aimes pas me fait craindre que tu ne l'aimes réellement. Je ne te dirai pas que cela m'afflige, car je crois Mongenet digne de ton estime. Mais je ne sais pas s'il t'aime, et je voudrais en être sûre. Si cela était, il me semble qu'il aurait dû me le dire avant de te le faire entendre. Je suis ta mère, moi. La connaissance que j'ai du monde et de ses abîmes me donne le droit et m'impose le devoir de te guider et de t'éclairer au besoin. Je t'en supplie, n'écoute les belles paroles d'aucun homme avant de m'avoir consulté. C'est à moi de lire la première dans le cœur qui s'offrira à toi, car je suis calme et je ne crois pas que, lorsqu'il s'agira de Pauline, de la personne que j'aime le plus au monde après ma mère et mes sœurs, on puisse être habile à me tromper. » Ces tendres paroles blessèrent Pauline jusqu'au fond de l'âme. Il lui sembla que Laurence voulait s'élever au-dessus d'elle en s'arrogeant le droit de la diriger. Pauline ne pouvait pas oublier le temps où Laurence lui semblait perdue et dégradée et où ses prières orgueilleuses montaient vers Dieu comme celles du pharisien, demandant un peu de pitié pour l'excommunié rejeté à la porte du temple. Laurence aussi l'avait gâtée comme on gâte un enfant, par trop de tendresse et d'engouement naïf. Elle lui avait trop souvent répété dans ses lettres qu'elle était devant ses yeux comme un ange de lumière et de pureté dont la céleste image la préserverait de toute mauvaise pensée. Pauline s'était habituée à poser devant Laurence comme une madone, et recevoir d'elle désormais un avertissement maternel lui paraissait un outrage. Elle en fut humiliée et même courroucée à ne pouvoir dormir. Cependant, le lendemain, elle vainquit en elle-même ce mouvement injuste et la remercia cordialement de sa tendre inquiétude. Mais elle ne put se résoudre à lui avouer ses sentiments pour Mongenet. Une fois éveillée, la sollicitude de Laurence ne s'endormit plus. Elle eut un entretien avec sa mère, lui reprocha un peu de ne pas lui avoir dit plus tôt ce qu'elle avait cru deviner, et respectant la méfiance de Pauline qu'elle attribuait à un excès de pudeur, elle observa toutes les démarches de Mongenet. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour s'assurer que Madame S. avait deviné juste, et 3 jours après son premier soupçon, elle acquit la certitude qu'elle cherchait. Elle surprit Pauline et Mongenet au milieu d'un tête-à-tête fort animé. Feignit de ne pas voir le trouble de Pauline, et dès le soir même, elle fit venir Mongenet dans son cabinet d'études, où elle lui dit « Je vous croyais mon ami, et j'ai pourtant un manque d'amitié bien grave à vous reprocher, Mongenet. Vous aimez Pauline, et vous ne me l'avez pas confiée? Vous lui faites la cour, et vous ne m'avez pas demandé de vous y autoriser ?» Elle dit ces paroles avec un peu d'émotion, car elle blâmait sérieusement Mongenet dans son cœur, et la marche mystérieuse qu'il avait suivie lui causait quelque effroi pour Pauline. Mangenet désirait pouvoir attribuer ce ton de reproche à un sentiment personnel. Il se composa un maintien impénétrable et résolut d'être sur la défensive jusqu'à ce que Laurence fît éclater le dépit qu'il lui supposait. Il nia son amour pour Pauline, mais avec une gaucherie volontaire et avec l'intention d'inquiéter de plus en plus Laurence. Cette absence de franchise l'inquiéta en effet, mais toujours à cause de son amie et sans qu'elle eût seulement la pensée de mêler sa personnalité à cette intrigue. Mangenet, tout homme du monde qu'il était, eut la sottise de s'y tromper et au moment où il crut avoir enfin éveillé la colère et la jalousie de Laurence, il risqua le coup de théâtre qu'il avait longtemps médité. Lui avoua que son amour pour Pauline n'était qu'une feinte vis-à-vis de lui-même, un effort désespéré, inutile peut-être pour s'étourdir sur un chagrin profond, pour se guérir d'une passion malheureuse. Un regard accablant Laurence l'arrêta au moment où il allait se perdre et sauver Pauline. Il pensa que le moment n'était pas venu encore et réserva son grand effet pour une crise plus favorable. Pressé par les sévères questions de Laurence, il se retourna de mille manières, inventa un roman tout en réticence, contesta qu'il ne se croyait pas aimé de Pauline et se retira sans promettre de l'aimer sérieusement, sans consentir à la détromper, sans rassurer l'amitié de Laurence et sans pourtant lui donner le droit de le condamner. Si Mangenet était assez maladroit pour faire une chose hasardée, il était assez habile pour la réparer. Il était de ces esprits tortueux et puérils qui, de combinaison en combinaison, marche péniblement et savamment vers un fiasco misérable. Il sut, durant plusieurs semaines, tenir Laurence dans une complète incertitude. Elle ne l'avait jamais soupçonné fat et ne pouvait se résoudre à le croire lâche. Elle voyait l'amour et la souffrance de Pauline et désirait tellement son bonheur qu'elle n'osait pas la préserver du danger en éloignant Mangenet. Non, il ne m'adressait pas une imprudence, insinuation, disait-elle à sa mère. Lorsqu'il m'a dit qu'un amour malheureux le tenait dans l'incertitude. J'ai cru un instant qu'il avait cette pensée, mais cela serait trop odieux. Je le crois homme d'honneur. Il m'a toujours témoigné une estime pleine de respect et de délicatesse. Il ne lui serait pas venu à l'esprit tout d'un coup de se jouer de moi et d'outrager mon ami en même temps. Il ne me croirait pas si simple que d'être sa dupe. Je le crois capable de tout, répondait Madame S. Demandez à la vallée ce qu'il en pense. Confiez-lui ce qui se passe. C'est un homme sûr, pénétrant et dévoué. Je le sais, dit Laurence. Je ne puis cependant disposer d'un secret que Pauline refuse de me confier. On n'a pas le droit de trahir un mystère aussi délicat quand on l'a surpris volontairement. Pauline en souffrirait mortellement et, fière comme elle est, ne me le pardonnerait de sa vie. D'ailleurs, la vallée a des préventions exagérées. Il déteste Mangenet. Il ne saurait le juger avec impartialité. Voyez quel mal nous allons faire à Pauline si nous nous trompons. S'il est vrai que Mangenet l'aime, et pourquoi ne serait-ce pas? Elle est si belle, si sage, si intelligente. Nous tuons son avenir en éloignant d'elle un homme qui peut l'épouser et lui donner dans le monde un rang qu'à coup sûr elle désire. Car elle souffre de nous devoir son existence, vous le savez bien. Sa position l'affecte plus qu'elle ne peut l'avouer. Elle aspire à l'indépendance, et la fortune peut seule la lui donner. « Et s'il ne l'épouse pas ?» reprit Madame S. « Quant à moi, je crois qu'il n'y songe nullement. »« Et moi ?» s'écria Laurence. « Je ne puis croire qu'un homme comme lui soit assez infâme ou assez fou pour croire qu'il obtiendra Pauline autrement. » « Eh bien, si tu le crois, répartit sa mère, essaye de les séparer. Ferme-lui ta porte. Ce sera le forcer à se déclarer. Sois sûr que s'il l'aime, il saura bien vaincre les obstacles et prouver son amour par des offres honorables. Mais il a peut-être dit la vérité, reprenait Laurence, en s'accusant d'un amour mal guéri qui l'empêche encore de se prononcer. Cela ne se voit-il pas tous les jours ? Un homme est quelquefois incertain des années entières entre deux femmes dont une le retient par sa coquetterie tandis que l'autre l'attire par sa douceur et sa bonté. Il arrive un moment où la mauvaise passion fait place à la bonne, où l'esprit s'éclaire sur des défauts de l'ingrate maîtresse et sur les qualités de l'amie généreuse. Aujourd'hui, si nous brusquons l'incertitude de ce pauvre Mangenet, Si nous lui mettons le couteau sur la gorge et le marché à la main, il va, ne fût-ce que par dépit, renoncer à Pauline, qui en mourra de chagrin peut-être, et retourner aux pieds d'une perfide qui brisera ou desséchera son cœur, tandis que, si nous conduisons les choses avec un peu de patience et de délicatesse chaque jour, en voyant Pauline, en la comparant à l'autre femme, il reconnaîtra qu'elle seule est digne d'amour, et il arrivera à la préférer ouvertement. Que pouvons-nous craindre de cette épreuve? Que Pauline ne l'aime sérieusement? C'est déjà fait. Qu'elle ne se laisse égarer par lui? C'est impossible. Il n'est pas homme à le tenter. Elle n'est pas femme à s'y laisser prendre. Ces raisons ébranlèrent un peu Madame S. Elle fit seulement consentir Laurence à empêcher les tête-à-tête que ses courses et ses occupations rendaient trop faciles et trop fréquents entre Pauline et Mongenet. Il fut convenu que Laurence emmènerait souvent son amie avec elle au théâtre. On devait penser que la difficulté de lui parler augmenterait l'ardeur de Mongenet, tandis que la liberté de la voir entretiendrait son admiration. Mais ce fut la chose la plus difficile du monde que de décider Pauline à quitter la maison. Elle se renfermait dans un silence pénible pour Laurence. Celle-ci était réduite à jouer avec elle un jeu puéril en lui donnant des raisons dont elle la croyait point due. Elle lui représentait que sa santé était un peu altérée par les continuels travaux du ménage, qu'elle avait besoin de mouvements, de distractions. On lui fit même ordonnancer par un médecin un système de vie moins sédentaire. Tout échoua contre cette résistance inerte qui est la force des caractères froids. Enfin, Laurence imagina de demander à son amie comme un service qu'elle vînt l'aider au théâtre à s'habiller et à changer de costume dans sa loge. La femme de chambre était maladroite, disait-on. Madame S. était souffrante et succombait à la fatigue de cette vie agitée. Laurence y succombait elle-même. Les tendres soins d'une amie pouvaient seuls adoucir les corvées journalières du métier. Pauline, forcée dans ses derniers retranchements et poussée d'ailleurs par un reste d'amitié et de dévouement, céda, mais avec une répugnance secrète. Voir de près chaque jour les triomphes de Laurence était une souffrance à laquelle jamais elle n'avait pu s'habituer. Et maintenant, cette souffrance devenait plus cuisante. Pauline commençait à pressentir son malheur. Depuis que Mongenet s'était mis en tête l'espérance de réussir auprès de l'actrice, il laissait percer par instants, malgré lui, son dédain pour la provinciale. Pauline ne voulait pas s'éclairer. Elle fermait les yeux à l'évidence avec terreur. Mais, en dépit d'elle-même, la tristesse et la jalousie étaient entrées dans son âme.